France Inter, le 18-20.
Est-ce qu'on a le droit de dire quand la vie c'est trop long? Est-ce qu'on a le droit de le dire quand vivre vieux c'est bien, les petits-enfants, les goûter avec les autres mamies, tout ça, mais après la très très grande vieillesse centenaire, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on préférerait pas? Est-ce qu'on a le droit de dire que l'affaire Jeanne Calment et les photos des doyennes et des doyens dans la presse locale, tout ça fout le bourdon plus qu'autre chose? Partout, dans les magazines, à la télé, on nous dit bientôt tous centenaires parce que les progrès sont là, et c'est vrai, la médecine, parce que, quoi qu'on en dise, on mange mieux, on travaille moins dur physiquement, parce que le corps résiste mieux, et tant qu'on est autonome, plus lent, d'accord, mais autonome, où est le problème? Sauf que pour un Robert Marchand, le centenaire le plus rapide du monde sur un vélo, un peu seul dans sa catégorie, combien de solitude ou de vie qui perd son sens, tout simplement, parce que être si vieux, d'accord, mais pourquoi faire au fond, même si on est toujours entouré, toujours choyé, parce que la peur d'être un fardeau, elle existe, parce que rester digne dans la très grande vieillesse, c'est un peu notre angoisse à tous. L'idée n'est pas de se dire « je veux mourir ». C'est pas ce que disent d'ailleurs les très très vieux, c'est pas ce qu'ils disent le plus souvent. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont fatigués de vivre. Alors, est-ce qu'on a vraiment tous envie d'être centenaire? Comment faire pour que nos très très vieux ne se sentent pas de trop? À quoi ça ressemble, à quoi ça doit ressembler désormais la très très grande vieillesse, puisqu'apparemment nous y allons? Faut-il que notre société s'adapte et fasse mieux pour ces âges-là? Parlons-en ensemble.
Fabienne Saint-Ès, le téléphone sonne.
Jean-Robert, c'est vous qui commencez, soyez le bienvenu au téléphone sonne, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à vos invités Véronique Fournier et Christophe Trival. J'espère que c'est bien eux.
Mais oui, vous êtes très très au courant. Quel talent. Allez-y,
Je lis votre page internet avec le discours que vous avez eu avant. je trouve que votre question, elle est très intéressante avec le très très vieux, parce qu'en fait, elle pose pour moi deux questions, c'est-à-dire cette peur de la mort qu'on trimballe de plus en plus et que certains nous règlent avec l'immortalité pour demain. Mais l'immortalité, je pense, pour ces gens-là, j'ai essayé d'être synthétique, hein, j'ai promis à votre opératrice, l'immortalité pour ces gens-là, je pense pas qu'elle soit dans le très vieux, ni dans le vieux, mais dans le toujours jeune. Mm-hmm. Parce que c'est la deuxième question dans le très très. Moi, j'ai 57 ans bientôt, et on me refuse le droit d'être un peu vieux. Et je ne sais pas quand c'est qu'on m'autorisera le droit d'être vieux. Et j'ai l'impression
Soyez pas trop pressé, Jean-Robert, quand même.
Oui, mais vous vous faites avoir vous aussi avec vos émissions avec les cinquantenaires. Parce qu'en fait, on est dans une société, on nous dit « Ah, mais t'es jeune encore, mais non, t'es jeune. » Et notre retraite, elle nous dit aussi qu'on est jeune et qu'on va pouvoir travailler jusqu'à 70 ans peut-être parce qu'on est jeune. Et qu'on pourra consommer jusqu'à 70 ans parce qu'on est jeune. Et donc, je trouve qu'il y a une double question. Et le très très, il est intéressant, il est très très intéressant parce que moi, j'ai envie d'être vieux. J'ai envie de mourir parce que sinon la vie elle est insupportable et j'ai envie qu'on me laisse vivre les étapes de ma vie. Voilà, merci à vos invités, merci à vous et puis on se doit une invitation au bistrot aussi pour Prévert une autre fois.
Bah écoutez, avec plaisir Jean-Robert et merci en tout cas pour cette entrée en matière parce que ça va bien lancer notre débat. Vous les avez présentés pour nous mais je vais le refaire. Bonjour à Véronique Fournier qui est avec nous en duplex de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. On salue nos amis à Aix d'ailleurs. Bonsoir Madame Fournier.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Bonsoir Christophe Trival.
Bonsoir.
Vous êtes chef de service au pôle gériatrie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous avez écrit « Sans un conseil pour être bien dans son âge et dans sa tête ». C'est publié chez Lafon. Ça l'a été l'année dernière en 2017. Je vais commencer avec vous Christophe Trival. Il a raison Jean-Robert en fait. Aujourd'hui il y a quelque chose qui dit on va vivre beaucoup plus longtemps, on va être centenaire, on fait des progrès, c'est formidable, mais on veut pas être vieux, on veut s'arrêter de vieillir au fond, c'est très différent quand même.
Oui, effectivement. Après, bon, si à 57 ans, il se considère vieux, c'est moi j'ai 57 ans aussi, bon, je me vois pas comme ça et je pense pas à la mort tous les jours et j'ai pas trop envie de mourir trop vite. Globalement, les gens ne se posent pas tellement la question. En fait, il y a des gens un peu intello ou un peu qui défendent certains projets, notamment avec la DMD, etc., qui ont une vision de la vieillesse où on voit des gens tous totalement dépendants. C'est ça, la très grande vieillesse, des gens très dépendants et très malades. Mais globalement, les gens vivent plus longtemps en bonne santé. Alors, c'est vrai que le transhumanisme, tout ça, eux, c'est plutôt on vit indéfiniment et on garde toujours un âge jeune. C'est pas du tout ça, la réalité. C'est que les gens vivent de plus en plus vieux.
Mais c'est vrai que les centenaires d'aujourd'hui sont ceux qui avaient 80 ans il y a 50 ans, peut-être.
Exactement, voilà, tout ça, c'est exactement ça. En tout cas, on le voit bien pour les tranches un peu plus jeunes. Pour les gens de 75 ans, c'est des gens qui avaient l'équivalent de 60 ans dans les années 50. Donc il y a ce décalage et ce phénomène qui se fait où on peut difficilement donner l'âge d'une personne quand on voit quelqu'un. C'est difficile de dire quel âge il a si on demande l'âge. Enfin, on dit quel âge vous lui donnez, on va toujours donner un âge beaucoup plus jeune. Et même dans sa tête, tout le monde se donne un âge beaucoup plus jeune. Et les gens de 80 ans, souvent, si on fait des enquêtes, ils se donnent un âge plutôt de 65, 66 ans. Hein. Ils se donnent pas 80 ans. Mmh. Ceux qui se donnent 80 ans, en général, c'est quand ils sont malades, qu'ils commencent à être dépendants, ou finalement, l'âge les a rattrapés. Et c'est là qu'ils se disent, ah ben oui, quand même, j'ai un certain âge, mmh. et voilà. Mais du coup... Mais du coup,
quand on arrive à 100, donc on se retrouve dans le même état que effectivement ce que vous décriviez d'il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, effectivement, 80, c'est peut-être le nouveau 60, mais désormais, quand on arrive à 100 et qu'on est très diminué, est-ce qu'on est dans une société au fond aujourd'hui qui veut pas nous voir en fait ? Quand on est, on nous explique partout, on nous met des doyens dans les journaux, mais on veut pas voir parce que c'est beaucoup moins glamour. Une vieille dame qui a des petits enfants, qui s'amuse, qui joue au bridge et qui fait des gâteaux, c'est formidable. Mais après, cette très très grande vieillesse, est-ce qu'on a vraiment envie de la voir, en fait ?
Elle est un peu cachée en même temps, c'est vrai. Hein. Mais bon, ce qu'on voit, ce qui fait beaucoup parler, c'est les très très vieux qui sont en bonne santé, c'est vrai. Quand vous dites Robert Marchand qui fait du vélo, quand il y a telle actrice à 100 ans, elle est toujours au théâtre, ou quand tel cinéaste à 102 ans, il tourne toujours des films. Mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de gens comme ça. Quoi. Les centenaires, ils seront comme ça. Après, c'est peut-être au-delà de 110 ans où on sera un peu plus dépendant. Mais c'est vrai que la vieillesse, moi je travaille dans les services de gériatrie où j'ai des gens très âgés, très malades et très dépendants. Donc cette vieillesse-là, c'est vrai qu'on veut pas la voir. Mais c'est pas parce qu'on crée des EHPAD qu'on veut la cacher, c'est plus compliqué que ça.
Véronique Fournier, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est très cachée, cette très très grande vieillesse? Est-ce qu'on a appris à l'apprivoiser quand on arrive à ces âges-là ou pas encore?
Écoutez, d'abord, sur le plan épidémiologique, je ne suis pas si sûre que la grande vieillesse soit sans incapacité. Mm-hmm. C'est-à-dire que les centenaires qui vont très bien, il n'y en a quand même pas énormément. Mm-hmm. Et malheureusement, l'espérance de vie a beaucoup augmenté, mais l'espérance de vie sans incapacité a beaucoup moins augmenté. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc le sujet de la très très grande vieillesse, c'est le sujet de la très très grande dépendance. Mm-hmm. C'est quand même celui-là le sujet. Et aujourd'hui, il me semble que nous connaissons tous autour de nous des gens qui sont très vieux et très dépendants. Et donc, on ne peut pas dire qu'on les cache. Mm-hmm. Il me semble que c'est une réalité dont on est tous aujourd'hui plus que conscients. Au centre d'éthique clinique à l'hôpital Cochin, on a à peu près 2 appels par semaine de familles qui nous disent qu'est-ce qu'on fait de nos très vieux parents, comment alors, on pourrait les accompagner mieux.
Je vais reformuler, pardon, parce qu'effectivement, c'est pas qu'on les cache puisque c'est une réalité, effectivement, mais c'est qu'on n'a pas très envie de voir ça dans la très grande vieillesse, que comme vous dites, effectivement, la plupart sont dépendants et c'est pas l'image qu'on a envie de donner finalement de cette très grande vieillesse. On a plutôt envie de nous faire croire qu'on peut vivre beaucoup plus longtemps en étant parfaitement en forme.
Tout à fait. C'est difficile, encore maintenant, de parler des très vieux, y compris dans les médias. Donc, je salue votre émission qui a le courage d'affronter ce sujet.
Tiens, je voudrais qu'on écoute Jeanne-Cécile, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je suis aide médico-psychologique en EHPAD. Donc, de la très grande vieillesse, on est confronté tous les jours. Mmh. Ce que je voulais dire, c'est que quand on dit est-ce qu'on a envie de vivre jusqu'à 100 ans ou pas, ça fait peur, mais un adolescent, il a peur d'être adulte, et je pense que de toute façon, ça fait peur, la vie fait peur, enfin les changements de vie font peur, et je pense que ce qui est le plus impressionnant, c'est la perte de, enfin c'est la dépendance en général, et la place que la société veut bien donner à ses aînés, et le budget qu'elle veut bien donner à ses aînés.
Et vous avez le sentiment qu'on n'en donne pas assez, vous ? C'est un peu ce qu'on dit toujours quand on parle des EHPAD, hélas, j'allais dire. Mais
Les EHPAD n'arrivent pas à recruter, n'arrivent pas à avoir suffisamment de personnel. Le métier n'est pas valorisé dans la société en général, pas simplement en EHPAD. Voilà.
Merci beaucoup pour votre question, Jeanne-Cécile. Ce que ça veut dire, Christophe Trival, quand j'entends Jeanne-Cécile, c'est que oui, on sait qu'on vivra tous plus vieux dans cette société-là, mais on n'est pas préparé, y compris avec les lieux nécessaires, avec les crédits effectivement nécessaires, avec les arrangements nécessaires pour que cette très grande vieillesse se passe en fait.
Tout à fait. Mais enfin, ce qu'il faut voir, c'est que en maison de retraite, par exemple en EHPAD, les aides-soignantes, les infirmières, c'est ce qui coûte le plus cher. À l'hôpital aussi, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc, comme on est toujours dans des politiques d'économie, quand il faut faire des économies massives à l'hôpital ou en maison de retraite, c'est sur les soignants qu'on va faire les économies. Donc après, il faut que la société elle accepte qu'il puisse y avoir des gens âgés et dépendants et que ça va avoir un coût. Donc, est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on paye pas? Qui paye? Pourquoi? Il faut voir que les familles, quand malheureusement, elles sont contraintes de mettre quelqu'un en institution, ça leur coûte très très cher. Ça coûte entre 2000 et 2500 euros en région parisienne, ça monte à 3000, 3500 euros par mois sur lesquels il n'y a aucune aide. Donc si vous avez vos deux parents en institution, vous voyez combien ça coûte. 80% des gens qui sont en institution n'ont pas les moyens financiers de payer le prix de l'hébergement. Donc ça, c'est un vrai problème de société. Après, la vision de la très grande vieillesse, elle est un peu déformée parce que les médecins ne voient que des gens malades. Moi, je suis gériatre, je vois que des personnes âgées malades et je m'occupe de gens Alzheimer, donc je vois que des Alzheimer. Donc je pourrais dire que tous les gens, quand on devient âgé, ils deviennent tous déments, Alzheimer et grabataires. C'est pas la réalité. En EHPAD, en maison de retraite, il y a que 80% des gens de plus de 80, enfin, il y a 20% des gens de plus de 80 ans qui sont en EHPAD. Ça veut dire qu'il y a quand même 80% qui sont à domicile et qui sont visibles par leur famille, par les voisins, par l'entourage et qui gardent une relative autonomie quand même. Il faut pas avoir une vision totalement négative, ni idyllique, ni négative.
La version idyllique, Véronique Fournier, on a l'impression que c'est ce vœu qu'on a tous, en fait, qui dit, moi, je veux mourir chez moi, tranquillement, dans mon lit et entouré des miens. Et au fond, quand on regarde les statistiques, 25% seulement des gens, j'allais dire, arrivent. J'y mets des guillemets, évidemment, à mourir au domicile. Ça veut dire qu'au fond, on aimerait quelque chose de presque idéalisé, en fait, pour notre fin de vie à tous.
Oui, mais je crois que votre question initiale était bonne. C'est-à-dire, il y a effectivement des gens qui, à partir d'un certain moment, en ont assez. Ils trouvent que ça suffit comme ça. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour cela ?
Et qu'est-ce que vous leur dites à vous, Véronique Fournier ? Qu'est-ce que vous leur dites ?
Eh bien, j'essaye de comprendre pourquoi ils en ont assez à ce moment-là, et j'essaye de comprendre dans quel état ils sont, et j'essaye de comprendre si la médecine n'en a pas trop fait pour eux ou n'est pas en train d'en faire trop, parce que parfois, c'est vrai que quand on prend ces gens en charge et qu'ils sont très dépendants dans les EHPAD, eh bien, ne serait-ce que les soigner un peu, les maintient souvent. Je me rappelle d'une vieille patiente à moi que j'ai suivie pendant plusieurs années, qui avait une grave maladie cardiaque, qui a refusé de se faire opérer de sa maladie cardiaque, en espérant, d'une certaine façon, que son cœur lâche. Et puis, malheureusement, ses yeux ont vieilli, ses jambes ont vieilli, son corps généralement a vieilli et son énergie aussi, moyennant quoi, elle avait une vie qui ne mettait plus en danger son cœur et ça a duré des années sans qu'elle puisse plus lire, plus sortir, et où elle s'ennuyait terriblement et elle disait « mais qu'est-ce que je fais encore là ?» Il faut l'entendre ça aussi, il y a plein de nos aînés qui disent cela. Et aujourd'hui, on ne sait pas bien comment répondre à tout cela. Je ne sais pas quelle est la solution, mais en tout cas, le problème, il existe.
Et on va y revenir dans un instant grâce à Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir.
Allez-y Jean-Marie, on vous écoute.
Oui, bonsoir, je vous appelle. Donc, moi, j'ai la grand-mère de mon épouse qui va faire 100 ans au mois de mars. Et elle ne veut pas y arriver. Elle vit toute seule, elle a son appartement à côté de Grenoble, elle a une vie très saine, elle est pas malade.
Donc elle est autonome par ailleurs.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Vous pouvez parler politique, elle fait ses sudoku, elle est vraiment en très bonne santé, beaucoup plus en santé que des gens beaucoup plus jeunes des fois. Et elle fait 100 ans au mois de mars et elle veut pas y arriver. La semaine dernière, je racontais, là, elle a eu mon épouse au téléphone qui lui disait, bon, elle lui dit, tu sais, tu viens aux vacances de février, je te promets pas d'être encore là parce que je sais pas si je serai là, tu m'en voudras pas si je suis pas là. Et voilà, donc on est en train de préparer les 100 ans, de faire une fête qui va avec, et elle veut pas y arriver. Et voilà, et bon, c'est son choix, je sais pas comment ça va se passer. Et voilà, je vous rappelle au mois de mars pour vous dire que ça s'est bien passé. Mais voilà, elle trouve que c'est une vie trop longue, que voilà, ses amis sont partis, elle a perdu un fils il y a pas très longtemps, qui l'a quand même assez bousculé, et voilà, donc c'est son choix, on le respecte, mais elle est encore là et puis j'espère qu'elle sera là au mois de mars.
Et on l'espère aussi, Jean-Marie, on l'espère pour vous, on espère qu'elle aura envie au moins de fêter ces 100 ans-là. Véronique Fournier, ça rejoint ce que vous disiez. Moi, je me demande, comment on dit à une personne qui a 100 ans, 102, 103, 105, je sais pas, comment on lui dit qu'il y a encore un sens, en fait? Parce que c'est ça la discussion que vous avez, j'imagine, avec eux. Il peut y avoir encore un sens.
Bien sûr qu'on leur dit ça. Et je crois qu'il faudrait surtout ne pas se sentir culpabilisé quand on est de la famille ou quand on est des soignants et qu'on est en train de faire le maximum pour qu'ils aient envie encore. Mais il faut aussi les respecter dans leur choix. Et quand ils ont l'impression que la vie est finie et qu'ils ont fait le tour, je pense qu'ils ont envie d'être écoutés. Alors après, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est une autre chose, il me semble qu'on n'est pas obligé de faire, mais en tout cas de les écouter, de comprendre que, eh bien peut-être, oui, ils ont le droit d'exprimer cela et de le sentir.
Christophe Trival, on dit qu'on appelle ça le syndrome de glissement, en fait. Quand on veut plus, donc on se laisse, on ne sait pas si c'est se laisser mourir au fond, mais il n'y a plus d'effort, en fait. Ça existe, ça, chez vos patients ou pas,
hein? Ça existe. C'est un concept qui est très discuté, quoi.
D'accord.
Parce que c'est très franco-français, quoi. Ça n'existe qu'en France, le terme de syndrome de glissement.
Ah, ben d'accord. Bah, c'est donc que ça n'existe pas, honnêtement.
Ailleurs, vraiment. Donc, après, il y en a qui disent que c'est une sorte de forme de dépression. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, bon, j'en ai marre, j'arrête, je veux pas me battre, mon kiki n'est pas. Et puis, qui vont mourir sur une période très, très courte, quoi. Donc ça, après, s'il n'y a vraiment pas d'éléments dépressifs majeurs, on peut respecter. L'idée, c'est pas de forcer les gens à vivre plus longtemps, c'est de respecter leur choix. Mais après, c'est pas forcément de les aider à s'arrêter au moment où ils en ont décidé.
De toute façon, c'est pas légal. Donc, la question ne se pose même pas, en fait. Mais je trouve ça, c'est très émouvant, finalement, une dépression à 99, 100 ans, qui parle de cette lassitude, en fait. Ça doit être difficile à manier.
Non, mais parler de la lassitude, les écouter. Mais, enfin, moi, dans ma pratique de tous les jours, c'est pas aussi fréquent que ça, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément une communication là-dessus, ils n'en parlent pas forcément, peut-être qu'ils ressentent à l'intérieur, mais qu'ils ne le disent pas.
Véronique Fournier, avant qu'on retourne au standard, moi je lisais que, on va dire statistiquement, pardon, c'est très froid, qu'effectivement il n'y avait pas de demande de mort en soi, ces gens ne demandent pas à mourir simplement, mais expriment effectivement peut-être de plus en plus le fait que c'est trop long, en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas forcément une expression de mort là derrière?
Eh bien, je pense qu'il l'exprime auprès d'autres gens. Il l'exprime pas forcément à nous médecins, mais ils peuvent l'exprimer, par exemple, à une aide-soignante qui vient faire leur toilette le matin, ou aussi à quelqu'un de leur famille. Peut-être pas forcément les enfants, parce qu'ils savent parfaitement que ça les rend coupables, ces gens-là. Ça aiguise chez eux une certaine culpabilité. Mais ils l'expriment à d'autres, et c'est fréquent qu'ils l'expriment.
Bonsoir, Patricia.
Oui, bonsoir France Inter, voilà. Je suis infirmière en EHPAD et il est vrai que nous accueillons de plus en plus de personnes d'un grand âge et nous recevons régulièrement l'expression de cette lassitude de vie. Bien souvent quand aussi certaines personnes, et nombreuses sont ces personnes, qui ont déjà des enfants qui sont morts, en disant ça n'est pas dans l'ordre des choses, ça n'est pas dans l'ordre de la nature, nous sommes très âgés, nous voulons arrêter, et la vie est trop longue. Alors, la question que je me pose, c'est vrai que pour certaines familles, ce sont des expressions absolument incompréhensibles, parce que je crois que dans les familles, de plus en plus, il nous est demandé de maintenir ces gens en pleine forme. Ma mère, qui a 100 ans, n'était pas en forme ce matin. Bon, alors il est très très difficile de communiquer sur ce sujet en disant « mais qu'elle a le droit d'être fatiguée ». C'est aussi une expression parfois qui renvoie à un sentiment d'échec par rapport à certains membres de l'équipe. Et puis, c'est une médecine aussi qui, je pense, n'est pas vraiment toujours à l'écoute. Je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Ce week-end, je travaillais du matin. Nous avons une personne de 102 ans qui s'éteignait tranquillement. Je ne sais pas aujourd'hui si elle est décédée, mais une bougie qui s'éteint tranquillement. On a mis en place tout un ensemble de contextes de soins palliatifs. Et nous avons découvert dans les transmissions de la semaine qu'il y avait un bilan sanguin qui était prévu pour ce matin. Et là, on se dit vraiment qu'il y a une inadéquation entre la réalité de cette personne qui s'éteint tranquillement et pour laquelle on se bat vraiment. Il faut se battre, hein, pour vraiment essayer de faire en sorte que le curatif ne soit plus là, mais que le palliatif soit bien mis en place. Et que vraiment ça se termine bien, mais qu'il y a d'un seul coup, imaginez la famille en disant mais vous n'avez pas fait la prise de sang de ce matin. Ouais. Ça nous met vraiment en porte-à-faux et pourtant, c'est la réalité de la vie. Cette personne s'éteint tranquillement. Voilà.
Vous donc dites, Patricia, ça m'interpelle. Vous dites, il faut se battre pour arrêter le curatif, en fait. Se battre avec
c'est
qui
dans les autres pays européens, mais je trouve qu'en France, il faut vraiment se battre. Parce que nous avons, cette dame a encore des patchs, les médecins qui sont là, de discotrine pour le cœur, son traitement à faire avaler le matin écrasé. Bien évidemment, on a arrêté tout ça, mais nous n'avons pas la prescription médicale de l'arrêt du traitement. Nous n'avons pas, peut-être si cette dame est en vie, les collègues qui ont pris la relève ce matin ont dû se battre pour certainement obtenir un traitement pour lever l'angoisse et la douleur, bon, qui n'était pas encore apparente ce week-end, mais qui peut éventuellement venir. Donc, le grand âge, oui, mais dans quelles conditions et que fait la médecine? Moi, c'est vraiment l'interrogation de fond. Et j'ai 60 ans, je suis en fin de carrière. Et je trouve que le grand âge, pourquoi pas, mais dans quelles conditions et pour quelle qualité de fin de vie et pour quelle qualité de vie? Ça, c'est vraiment un cri du cœur parce que c'est quelque chose que qui me heurte à tous les instants et régulièrement dans nos EHPAD et qui font souffrir les familles, mais les équipes aussi, énormément.
Merci beaucoup. Pardon, allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose, Patricia?
Oui, et qui font rater ce grand âge à la personne prioritairement concernée, c'est-à-dire la personne qui est la personne âgée. Voilà.
Et merci beaucoup vraiment pour ce témoignage, Patricia, qui est important. Je vais vous poser la question à tous les deux. Christophe Trival, c'est très joli ce qu'elle nous décrit, Patricia. À quel moment, effectivement, comment ça marche, en fait? À quel moment on se dit que quand on a 98, 100, 102 ans, les patchs pour le cœur, etc., bon, ça sert finalement plus à grand chose. Comment ça marche?
Son témoignage était très bien. Il y a deux choses. Il y avait une chose où elle dit souvent que c'est les familles qui demandent un petit peu qu'on continue à s'en occuper.
C'est les familles qui insistent sur le curatif?
Pas toujours, mais en tout cas, très souvent, maintenant, on voit que les familles insistent sur le curatif. Il y avait quelques années, on avait une dame de 102 ans. Sa fille, elle voulait pas qu'elle meure. Elle a dit, si elle s'aggrave, il faut l'envoyer en réanimation. Très souvent, il y a une demande des familles qui disent, mais il faut l'envoyer en réanimation. Pourquoi vous l'envoyez pas en réanimation?
Vous savez, mon grand-père disait, le médecin refuse de me guérir. Mais c'était pas malade, t'es vieux.
Et après sur le palliatif, le curatif, elle avait l'air de remettre en cause un petit peu l'attitude des médecins. C'est vrai qu'il y a des questions de formation et des questions de génération aussi au niveau des médecins. Certains ont été formés un peu à la prise en charge de la douleur, de la fin de vie, d'autres un petit peu moins. Et la difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'on est dans le palliatif et quand est-ce qu'on est dans le curatif et quand est-ce qu'on est en train de faire de l'acharnement thérapeutique ou quand est-ce qu'on est en train de faire de l'abandonnisme. Parce que la chose dangereuse aussi, c'est de ne pas faire des choses utiles. De dire, ce traitement, je ne le mets pas parce qu'il est trop vieux et donc il n'a pas besoin de son bêta-bloquant, de son anticoagulant, alors que finalement la personne est plutôt bien et que ce traitement va l'aider. C'est là où c'est toujours, on est un petit peu à cheval. Après, dans les soins palliatifs, souvent, je vois ça un peu dans le service, c'est que dès que les gens sont en institution, on considère qu'ils sont en phase terminale. En réalité, ils sont peut-être en soins palliatifs, peut-être que sur certaines choses, on ne va pas faire de l'acharnement, on ne va pas mettre de traitement, mais peut-être que sur d'autres, on peut mettre un traitement pour voir si on passe un cap ou si ça dépend un peu de l'état et des perspectives. Et si on voit que la personne n'est vraiment pas bien et qu'on est vraiment dans une phase terminale, elle avait l'air de dire, effectivement, on arrête les patchs, on arrête les traitements, on ne va pas faire de prise de sang, on ne prend pas la tension, etc.
Véronique Fournier, j'imagine que c'est extrêmement compliqué, ce moment, cette frontière-là, en fait, où on dit que non, on va arrêter le curatif. Le terme qu'a employé Christophe Trival, que je ne connaissais pas, l'abandonnisme, il y a cette espèce de moment où on marche un peu le long de la crête, non? Est-ce que c'est un peu le sentiment qu'on a, y compris quand on est comme vous, spécialiste de ces questions?
Oui, je crois vraiment que ces deux témoignages-là sont absolument vrais. La grande difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter ou quand est-ce qu'il faut au contraire ne pas s'arrêter. Et parfois, il y a des gestes qui sont, y compris des gestes agressifs, qu'il faut savoir faire pour une personne très âgée, parce que c'est important pour son confort et tant pis si elle prend des risques avec ça. L'autre jour, par exemple, on avait un homme comme ça, très âgé, qui avait une sonde urinaire à demeure. Et tous les proches disaient que c'était indigne de le laisser comme ça et disaient mais pourquoi est-ce qu'on ne le perd pas de sa prostate comme un autre homme, même si c'est risqué sur le plan anesthésique. Et oui, pourquoi pas, mm-hmm. après tout. Donc c'est très difficile de savoir.
Vous le faites dans ces cas-là, Véronique Fournier, ou pas? Une opération, donc ça veut dire anesthésie générale. Chez un vieux monsieur 98, 99, 100 ans, vous avez raison, on parle de dignité. Est-ce qu'on le fait quand on est médecin ou pas?
Eh bien écoutez, en tout cas, c'est comme ça qu'on devrait se poser la question. Et parfois, on ne se la pose pas parce que justement, ils sont vieux ou justement, ils sont en EHPAD et que du coup, on se dit, on ne fait plus rien. Eh bien si, on peut faire les choses qui sont importantes pour leur dignité, pour leur confort quotidien et pas forcément continuer des petits traitements qui finalement ne sont pas forcément indispensables au stade où ils sont. Mais c'est très compliqué de discuter de cela au quotidien avec les équipes.
Alors, avec les équipes et avec les...
Avec les familles.
Avec les familles, parce que c'est marrant, on parle des équipes, on parle des familles, mais comme si finalement, le vieux monsieur ou la vieille dame qui est dans une très très grande vieillesse, était presque secondaire en fait. À quel moment, le monsieur qui a 99 ans et qui veut se faire opérer de la prostate, à quel moment c'est lui, au fond, qui décide? Est-ce que ça peut se passer comme ça ou pas, Christophe Trival?
Bah oui, enfin s'il a 99 ans et qu'il dit « moi je veux me faire opérer de la prostate », là il n'y a aucun souci, quoi, parce que ça sera fait. Parce qu'en plus, on a de plus en plus de données sur la chirurgie du centenaire, l'esthétique du centenaire, etc. La cataracte, on peut l'opérer jusqu'à 110 ans sans problème. Il y a des petites chirurgies. Et par exemple, un malade qui va se casser le col du fémur.
On peut opérer une cataracte jusqu'à 110 ans.
Oui, il n'y a aucun. La cataracte, c'est, voilà, c'est des petits gestes en réalité, ça. Et le malade qui va se casser le col du fémur, même s'il est très âgé, même des fois certains malades qui sont en soins palliatifs avec des métastases, on va les opérer. Ça ne va poser aucun problème, ni à l'anesthésiste, ni au chirurgien. Après, il y a des fois où le malade est tellement pas bien qu'on se dit tel ou tel l'opération, est-ce que ça vaut le coup? La prostate, c'est vrai que on n'y va pas toujours, quoi. Mais après, des fois, il y a des traitements palliatifs sur les problèmes de prostate, par exemple. Donc, il y a différentes sortes de traitements. Mais après, c'est, alors le malade, il a son rôle à jouer quand il est capable d'exprimer ce qu'il veut. Et c'est toujours le malade en premier. Mais après, si le malade ne vient pas, est-ce qu'il a fait des directives anticipées? Ben, les gens âgés, ils n'ont jamais fait de directives anticipées. Une personne de confiance, en général, c'est la famille, la personne de confiance, mais ils n'ont pas fait un papier très clair là-dessus. Et donc après, on va voir avec la famille. Mais c'est vrai que l'avis des équipes est très très important quand là c'est ce que le témoignage de l'infirmière de tout à l'heure qui disait que le malade des fois il va se confier uniquement à l'aide-soignante. L'aide-soignante, c'est elle qui a le contact le plus proche du malade, elle lui fait la toilette, elle lui donne à manger, elle est à côté, elle est tout le temps à côté de lui. Et le malade va peut-être lui dire ben moi j'ai pas envie de ça, je voudrais ça, j'aimerais bien ça. Et donc c'est pour ça que c'est important le travail en équipe et les réunions d'équipe où l'aide-soignante va pouvoir dire ah ben monsieur un tel, madame un tel m'a dit ça, moi je trouve que c'est important, il faut le respecter.
Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
On vous écoute, Aurore, allez-y.
Ben, moi, je viens d'avoir 38 ans. J'ai eu 38 ans samedi.
Joyeux anniversaire.
J'ai prévenu mon compagnon qu'à partir de 40 ans, je vais ouvrir une convention obtech pour vous préparer, hein, pour que dans ces moments-là, il n'y ait rien à faire. Et par contre, avec une option spécifique, c'est que je puisse retirer l'argent cumulé n'importe quand pour si jamais... Je deviens indépendante, que je puisse aller soit en Suisse, soit en Belgique, comme en France l'euthanasie est interdite, pour pouvoir terminer dignement et choisir quand je veux.
Alors allez savoir ce qui va se passer quand même, vous avez 38 ans Aurore, quand vous aurez l'âge de faire ce genre de choix, ce sera dans 40 ans, la loi peut-être aura évolué.
J'espère.
Mais c'est fou d'y penser dès maintenant quand même, moi je suis assez épatée en fait.
Je suis infirmière aussi. Ouais. Et j'ai entendu mes deux collègues d'avant et je peux que être d'accord avec elles. J'ai travaillé 2 ans en long séjour. Là, je suis en service de chirurgie. Et même dans les services de chirurgie, on a vraiment l'impression que les médecins n'ont pas la... Pour eux, la mort est un échec. Ça ne fait pas partie de la vie.
Y compris chez les très vieilles personnes, selon vous, de votre expérience d'infirmière, en tout cas?
Oui. On a de plus en plus de jeunes médecins qui viennent faire leur stage en internat et tout ça. Et non, la mort, c'est très difficile pour eux à l'accepter. Hein.
Merci Aurore. On va enchaîner avec Anne qui dit un peu la même chose, mais qui est, pardon Anne, beaucoup plus vieille que vous, Aurore. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir. Bah, écoutez, justement...
Mais vous avez la voix tout aussi jeune que celle d'Aurore, je tiens à le dire quand même, qui a 40 ans de moins que vous. Allez-y.
Oui, mais alors justement, je viens d'entendre Aurore et c'est amusant, je me comprends. Oui, effectivement, moi j'ai 70 ans, je suis actuellement en relative bonne santé, donc il n'y a rien de particulier. Mais je voulais dire que je suis très choquée par le fait qu'on ne puisse pas, tant qu'on est sain de corps et d'esprit, justement décider de sa mort. C'est quelque chose qui me dérange au nom de la liberté personnelle. Je pense que, bon, j'ai donné des instructions anticipées de manière à surtout ne pas prolonger en cas de truc, de besoin, mais je trouve qu'on devrait pouvoir dire, ben voilà, moi j'ai décidé de mourir pour x, y, z raison. C'est ma liberté, c'est mon choix, et je regrette qu'on ne puisse pas le faire comme en Suisse. Il faut évidemment que ça a un coût très élevé. Mmh. Voilà. Et vraiment, ça me choque énormément.
Et merci beaucoup, Anne, pour votre question. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer à côté de ce sujet-là. J'ai 70 ans, je suis en bonne santé, mais je regrette vivement que l'on ne puisse pas choisir librement sa mort comme en Suisse. C'est une question sur franceinter.fr. Je n'ai pas du tout envie de vivre jusqu'à 100 ans. Voilà une autre. Je ne veux pas coûter cher à mes enfants, à mes petits-enfants. Et j'espère que la loi sur la fin de vie va évoluer, etc., etc. Christophe Trival, on en parle de ça ou pas dans un service de gériatrie comme le vôtre?
Après, la
est-ce
loi.
Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce qu'on vous demande même comment ça marche là-bas ou pas?
Enfin, ceux qui arrivent dans les services de gériatrie, globalement, ils sont quand même très âgés, très altérés. Et moi, ouais. J'ai pas ces demandes-là. Mm-hmm. Après, on a des fois des gens qui ont leur carte de l'ADMD. Finalement, ils demandent pas à mourir et ils insistent pas plus mm-hmm. que ça. Après, c'est une position très intellectuelle et une position très philosophique, mmh. finalement, ce choix. Donc, est-ce que c'est à la société de résoudre ce choix philosophique? Après, les gens, s'ils veulent en finir, ils peuvent en finir quand ils veulent. Ça, c'est pas interdit. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Est-ce qu'il faut que ce soit la société qui leur propose un kit clé en main pour le faire? Je sais pas. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en Suisse, en Belgique, il y a des possibilités. Et des fois, sur des gens qui n'ont aucune maladie, qui n'ont rien d'autre que de dire, mais moi, je veux m'arrêter de vivre. Cet été, on avait entendu une dame qui avait dit, moi, j'ai programmé mon décès pour janvier 2020. Mmh. Mmh. Bon, donc là, pourquoi c'est à la société de gérer ce choix philosophique? Elle a le droit de programmer ce qu'elle veut, mais pourquoi le faire? Moi, c'est un peu ça, ma limite, après.
Et Véronique Fournier, de votre côté, vous, dans un centre national des soins palliatifs, quand on s'occupe de fin de vie comme ça, comme vous, est-ce que c'est des questions qu'on vous pose réellement ou pas? Est-ce qu'on vous demande même, Christophe Trival parlait de kit, est-ce qu'on vous demande même comment ça marche, comment font nos voisins suisses et belges? Ça arrive chez vous ou pas?
Oui, la question se pose extrêmement souvent quand on parle de ces sujets-là et qu'on ouvre le débat, la question sort quasi systématiquement. Mm-hmm. Mais il me semble que c'est pas du tout le même sujet que celui de ce soir. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est un sujet de liberté individuelle et voilà, et effectivement, il y a des choix législatifs différents. Mais comme le disait mon confrère Monsieur Trival, les gens qui arrivent en EHPAD ou en gériatrie et qui sont malades et qui sont très dépendants, c'est pas le sujet, parce mm-hmm. que ceux-là ne sont pas capables, plus capables de demander cela. Et voilà, ils l'ont peut-être voulu ou exprimé à un moment précédent, mais quand ils arrivent là, ce n'est plus leur demande. Pour tenir une demande d'aide active à mourir, d'euthanasie ou de suicide assisté, il faut vraiment être très très autonome dans sa tête mmh. et très fort. Et parfois, les gens qui sont arrivés à un très grand âge et qui sont très dépendants et malades ne peuvent plus soutenir une mmh. demande comme celle-là.
C'est des choses auxquelles on pense même bien bien avant, alors pas forcément à 38 ans comme notre amie infirmière tout à l'heure, Aurore, mais c'est des choses auxquelles on pense beaucoup 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 plus tôt que l'arrivée de la très grande vieillesse, non, Véronique Fournier?
Et ce qui est assez dommage, si vous voulez, c'est que au fond, parce que, justement, on n'aborde pas cette question ou parce qu'on n'y apporte pas une réponse en France, eh bien, du coup, on dit que ce qui se passe en EHPAD avec mmh. des personnes très âgées qu'on continue de maintenir, qu'on continue de traiter, qu'on continue, à qui on continue de faire de la médecine peut-être un peu excessivement, mmh. on ne réfléchit pas à cette question-là. Je pense qu'on pourrait réfléchir à cette deuxième question qui est essentielle, sans la ramener toujours à la question d'une loi sur l'euthanasie.
Bonsoir Danielle.
Oui, bonsoir à tous.
Soyez la bienvenue Danielle.
Merci. Alors moi je suis une jeune fille de 78 ans. Je veux bien vivre jusqu'à 105, 110, 120 ans, c'est pas le souci. Mais alors vraiment en forme, comme tout le monde le dit de façon générale, physique et mentale. C'est-à-dire m'intéresser encore à des tas de choses, être autonome, ne pas souffrir chaque fois que je fais un pas, etc. Ça tombe sous le sens. Mais ce qui me frappe dans ces débats sur la vieillesse, ou la grande vieillesse même, c'est qu'on a toujours l'impression que les personnes âgées sont sorties là ex nihilo. Elles se baladent quelque part, on ne sait pas où, mais elles n'ont jamais d'environnement. Or, qu'est-ce qui est important ? C'est la personne dans l'expression « personne âgée ». Et pour une personne, tout être humain a besoin de sociabilité. On a besoin de se sentir aimé, d'être aimé et d'aimer d'ailleurs, et on a besoin d'échanges. Or, quand je vois aujourd'hui le nombre de personnes âgées, notamment de femmes, qui sont seules, veuves, divorcées, etc., abandonnées par leurs enfants, qui ne voient pas leurs petits-enfants, qui sont complètement isolées et qui n'ont pas d'espoir d'une vie normale, d'une vie sociale, donc, puisque nous sommes des êtres sociaux, je ne vois pas à quoi, pourquoi on parle de personnes âgées comme ça, sans parler de leur environnement, c'est-à-dire d'amour et d'échange. Il n'y a qu'à aller se promener dans des services de gériatrie pour voir combien les personnes sont seules. Et ça, ce n'est pas la vie, à mon avis.
Merci beaucoup, Daniel. Tiens, allons nous promener dans un service de gériatrie, Christophe Tribal, comme le disait Daniel à l'instant. Bien sûr que quand il y a encore un environnement familial, un environnement amical, évidemment que c'est plus facile et que ces questions-là, du coup, celles qui nous occupent aujourd'hui, se posent évidemment nettement moins.
Exactement.
Le problème, c'est quand tout le monde a disparu autour, en fait.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est que, enfin, bon, il y a un peu ce qu'on appelle la résilience aussi. C'est-à-dire que les gens âgés pour qui tout l'entourage a disparu, qu'il n'y a plus d'amis, tout ça, celles qui sont capables de recréer du lien avec des gens plus jeunes, et ben celles-là, elles vont avoir un meilleur vieillissement. Donc, il y a aussi un peu les capacités de la personne âgée. Mais peut-être qu'il faut revoir tout l'esprit de la société, parce que on voit bien que les familles modernes, elles sont éclatées, elles sont recomposées, les gens ont déménagé, ils habitent loin. Donc, tout ça, ce sont pas des facteurs qui facilitent le fait d'être à proximité. Avant, tout le monde habitait dans la même maison, c'était facile. Maintenant, c'est plus compliqué. Donc, peut-être qu'il faut recréer des nouvelles familles là où est la personne âgée. C'est-à-dire que les gens jeunes qui sont autour, le village, etc., ben, on vient vers elle. Et donc, c'est l'image de la personne âgée et la dignité de la personne âgée. C'est dans l'image, dans le regard des gens, quoi. C'est le regard que vous portez sur ces gens, même s'ils sont très dépendants, c'est ça qui fait leur dignité.
Et c'est ce qu'on disait au début, effectivement, tout dépend de où est la famille, que dit la famille, est-ce qu'il y a un véritable environnement. Geneviève, ce sera vous la dernière. Promettez-moi de ne pas faire trop long, on vous écoute.
Je ne fais pas long, bonsoir. À 60 ans, j'ai mis mes 3 derniers enfants à la porte. 2 de 21 et 1 de 23. Et je leur ai dit, vous allez faire votre vie, moi je vais faire la mienne, je m'achète quelque chose en Cévennes. Donc je suis partie en Cévennes, je me suis acheté un grand mas, où je suis très bien, et j'ai fait de ma vie un rêve, et de mon rêve une réalité, et ça se passe très bien. Alors, à 60 ans, j'ai dit, j'en ai encore 60 pour moi. Bon, ça fait 10 ans, là j'ai 70 ans, je dis, bon allez, 59 maintenant. Mais si on se programme pour 20 ans, on ne tiendra pas 20 ans, si on se programme pour plus, on avance. Je pense que c'est plus simple comme ça de vivre vieux.
Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite de vivre très, très vieille dans vos Cévennes, Véronique Fournier. On peut se programmer, je dis ça sans plaisanter, en fait, se programmer mentalement en se disant, après tout, puisque je suis bien et que je vais bien et que je suis entourée et que je suis heureuse, je peux vivre plus longtemps.
Oh, je suis sûre que ça a de l'effet. Et ça me paraît tout à fait évident. Je voulais juste vous raconter qu'au Japon, les familles du Nord proposent leur service aux proches, aux vieilles personnes qui habitent près de chez elles et qui sont pas forcément leurs parents, contre un échange avec une famille du Sud qui ira visiter leurs propres parents qui habitent dans le Sud. Chez nous, est-ce qu'on serait capable de faire ça ?
Alors, la question reste posée. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre des sociétés asiatiques, peut-être dans la manière dont ils s'occupent de leurs vieux. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé à ce téléphone sonné. Portez-vous bien.